Terroir Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du jeudi 18 août 2022. Jean-Roger Billon à ce micro, bonsoir à tous. Au sommaire du journal, deux chefs rebelles tchadiens sont de retour à N'Djamena avant l'ouverture samedi du dialogue national. Visite de parlementaires américains au Kenya, la délégation des élus du Congrès va rencontrer tous les acteurs politiques. Félicien Kabuga, un des financiers présumés du génocide rwandais, sera jugé à La Haye, et cela à partir du 29 septembre. Au Royaume-Uni, les grèves se multiplient face à l'inflation galopante. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord, le journal. Au Tchad, à deux jours de l'ouverture du dialogue national, deux chefs rebelles sont rentrés à N'Djamena, Timane Erdimi et Mahamat Nouri étaient en exil après avoir tenté de renverser l'ancien président Idriss Déby Itno, Abdourahman Dia.
Timane Erdimi, le chef de l'Union des forces de la résistance UFR et cousin du défunt président, a atterri en début de matinée à l'aéroport de N'Djamena où l'attendait une cinquantaine de proches. Le chef de l'UFR vivait en exil depuis une dizaine d'années au Qatar. La progression de ses hommes vers N'Djamena a été stoppée par des bombardements de Mirage français en 2019. Un peu plus tard dans la journée, Mahamat Nouri, leader de l'Union des forces pour la démocratie et le développement, est lui aussi arrivé dans la capitale tchadienne. Monsieur Nouri, ancien ministre de la Défense d'Idriss Déby, avant de faire défection, avait été mis en examen en France pour crime contre l'humanité pour le recrutement présumé d'enfants soldats au Tchad et au Soudan. Incarcéré à Paris en 2019, il est remis en liberté en 2020 pour raison de santé. Les deux chefs rebelles doivent participer à partir de samedi à un grand dialogue national inclusif qui doit déboucher sur des élections libres et démocratiques et le transfert du pouvoir aux civils selon les autorités de la transition. Un décret signé hier par le chef de la junte, Mahamat Idriss Déby Itno, souligne que ce dialogue sera souverain et que ses décisions seront exécutoires.
Par ailleurs, un collectif de l'opposition tchadienne a annoncé maintenir sa manifestation prévue demain vendredi et appelle à la désobéissance civile tout en dénonçant le caractère illégal de l'interdiction du rassemblement. Wakitama, un collectif de partis d'opposition et d'associations de la société civile au Tchad, avait appelé à manifester le 19 août contre le Conseil militaire de transition et le dialogue qui doit s'ouvrir samedi à N'Djamena. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a officialisé aujourd'hui sa candidature à la présidentielle de 2024 et a accusé le président Macky Sall et la France de se liguer pour l'empêcher de se présenter. Monsieur Sonko, 49 ans, chef du parti PASTEF, élu maire de Ziguinchor en janvier, a été troisième à la présidentielle de 2019. Il tient un discours à la fois souverainiste, panafricaniste et social, pourfendant les élites et la corruption. Une délégation du Congrès américain est arrivée au Kenya pour rencontrer le nouveau président élu, William Ruto, et Raila Odinga, figure de l'opposition susceptible de contester devant les tribunaux sa défaite lors de la présidentielle. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
La nouvelle ambassadrice des États-Unis au Kenya, Meg Whiteman, a déclaré que la délégation va aussi rencontrer le président sortant, Uhuru Kenyatta. Le président sortant avait soutenu la figure de l'opposition Raila Odinga contre William Ruto, l'actuel vice-président. M. Odinga a exhorté ses partisans à rester calmes dans ce pays qui a connu souvent des violences post-électorales. Il a déclaré qu'il explore toutes les options légales pour contester sa défaite annoncée. Il a jusqu'à lundi pour déposer un recours devant la Cour suprême qui aura 14 jours pour statuer. La commission électorale s'est publiquement divisée quelques minutes avant l'annonce des résultats lundi. Quatre commissaires nommés par le président Uhuru Kenyatta ont contesté les résultats donnant William Ruto vainqueur avec 50,49% des votes contre 48,85% pour Raila Odinga.
Le président sortant du Kenya, Uhuru Kenyatta, a dit aujourd'hui lors d'une rencontre avec des représentants religieux que le processus de transition se ferait en douceur. Il ne s'est pas encore exprimé publiquement pour saluer la victoire de William Ruto, son vice-président. Félicien Kabuga, un des financiers présumés du génocide de Tutsi en 1994 au Rwanda, sera jugé à partir du 29 septembre à La Haye, où il répondra d'accusations de génocide et crimes contre l'humanité. Les détails avec Claire Morin-Gibou.
Les déclarations préliminaires auront lieu à partir du 29 septembre et les dépositions à partir du 5 octobre à La Haye, a annoncé le juge Yann Bonomi du mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux en charge d'achever les travaux du TPIR, le tribunal pénal international pour le Rwanda. Félicien Kabuga est mis en accusation pour génocide, incitation au génocide et crimes contre l'humanité. Il est accusé de financement pour la radio-télévision d'Émile Colline qu'il présidait à l'époque et le magazine Kangoura qui faisait des appels au meurtre des Tutsis. Il aurait contribué aussi à l'armement des milices Hutu, Interahamwe, qui ont fait plus de 800 000 morts en quelques mois au Rwanda. Après 25 ans de cavale, Félicien Kabuga a été arrêté en France le 16 mai 2020. Ses avocats ont tenté en vain de lui éviter un procès, arguant de son état de santé à 89 ans. La chambre de première instance du tribunal onusien a estimé à la mi-juin que son état de santé n'était pas incompatible avec le procès.
Le gouvernement éthiopien qui dit vouloir entamer rapidement des pourparlers en vue d'un cessez-le-feu avec les autorités rebelles de la région du Tigré a accusé jeudi ces derniers de biaiser pour camoufler leur refus de négocier la paix. En conflit depuis novembre 2020, le gouvernement fédéral et les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré se disent depuis plusieurs semaines prêts à négocier, mais aucune discussion n'a débuté, les deux parties divergeant sur plusieurs modalités.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Royaume-Uni connaît une nouvelle salve de débrayage massif dans les transports. La poste, les ports, c'est le plus gros mouvement de grève depuis des décennies face à l'inflation qui dévore le pouvoir d'achat des Britanniques. Mohamed Oumfa.
En pleine vacances scolaires, seul un train sur cinq a circulé jeudi dans le pays. Des dizaines de milliers d'employés du rail ont été appelés à cesser le travail par plusieurs syndicats qui incitent les usagers à éviter le train comme mode de transport. Le mouvement de grève pourrait se poursuivre indéfiniment, faute d'accord salarial, a prévenu Mick Lynch, le secrétaire général du principal syndicat du secteur ferroviaire. Les travailleurs britanniques sont fondamentalement sous-payés, ajoute le syndicaliste, pour qui le mouvement ne sera pas brisé et pourrait au contraire s'étendre à d'autres secteurs de l'économie. Dimanche, les dockers du port de Felixstowe, le plus gros pour le fret dans le pays, démarrent une grève de 8 jours. Postiers, employés du secteur télécom, manutentionnaires d'Amazon, mais aussi éboueurs, ont débrayé ou prévoient de le faire. Les employés réclament des revalorisations de leur paie en phase avec l'inflation qui a atteint en juillet plus de 10 points. Le pouvoir d'achat a baissé face à des hausses de prix à une vitesse record, assure dans un communiqué Shannon Graham, secrétaire général du syndicat Unite, l'un des principaux du pays.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé aujourd'hui l'ONU à assurer la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par la Russie et visée par plusieurs bombardements, en recevant le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. M. Zelensky a dénoncé sur Telegram la terreur délibérée provoquée par la Russie qui peut avoir des conséquences catastrophiques majeures pour le monde entier. Au moins 21 personnes ont été tuées et 33 autres blessées dans un attentat à l'explosif dans une mosquée de Kaboul, mercredi à l'heure de la prière du soir, selon le bilan de la police donné jeudi. Le nombre d'attentats a diminué en Afghanistan depuis que les talibans ont pris le pouvoir il y a un an, mais ils n'ont pas cessé pour autant. La plupart sont revendiqués par le groupe djihadiste État islamique. Et puis l'homme soupçonné d'avoir poignardé l'écrivain Salman Rushdie la semaine dernière dans l'ouest de l'État de New York, ici aux États-Unis, a plaidé non coupable aujourd'hui des accusations de tentative de meurtre et d'agression lors d'une audience au terme de laquelle il a été incarcéré sans possibilité de libération sous caution. Adi Mata, c'est son nom, âgé de 24 ans, est accusé d'avoir attaqué l'auteur des versets sataniques vendredi lors d'une conférence organisée par la Chautauqua Institution. Il comparaissait jeudi devant un tribunal de district après son inculpation formelle par un grand jury. Grièvement blessé, Salman Rushdie, âgé de 75 ans, est toujours hospitalisé. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Eric Manirakiza.
La valeur du franc CFA a progressé à son niveau le plus élevé depuis 10 ans face au CEDI du Ghana. En septembre 2012, il fallait 271 francs CFA pour obtenir un seul CEDI ghanéen, indique l'agence Ecofin. Selon les dernières données de marché, il faut désormais 68 francs CFA pour la même transaction de change. La valeur du franc CFA ne dépasse pas encore celle du Ghana, mais elle s'est considérablement améliorée. Les salariés des centrales électriques du Nigeria ont suspendu leur grève nationale qui a partiellement plongé le pays dans l'obscurité pendant 24 heures, a annoncé jeudi un responsable syndical. Le gouvernement a promis d'étudier dans les deux semaines les demandes des grévistes en vue de verser les salaires aux travailleurs retraités d'une ancienne société d'électrique publique. Le syndicat national des travailleurs de l'électricité menace de reprendre la grève si dans deux semaines, rien n'est fait. Les États-Unis et Taïwan ont annoncé jeudi le début de négociations commerciales au début de l'automne. Les pourparlers couvriront notamment l'agriculture, le commerce électronique et la levée des barrières commerciales. Ces discussions s'inscrivent dans le cadre d'une initiative annoncée en juin et qui a déjà donné lieu à une première rencontre le même mois. Un accord commercial renforcera les échanges et l'investissement et promouvera l'innovation et une croissance économique inclusive pour les travailleurs et les entreprises des deux partenaires, a précisé le bureau de la représentante américaine au commerce.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Le Nigeria a réussi sa phase de poule au mondial féminin des moins de 20 ans.
Oui, les Nigérianes ont dominé le Canada 3-1 lors de leur dernier match de poule au Costa Rica où se joue ce mondial féminin des moins de 20 ans. Les Super Falconettes bouclent ainsi leur phase de poule sans faute avec 3 victoires en autant de matchs. Elles finissent leader du groupe C et affronteront les Pays-Bas en quart de finale. L'autre représentant africain à ce mondial, le Ghana, s'est incliné 3 fois en 3 matchs de poule et est donc out.
Mondial 2022, 2,45 millions de billets écoulés avant l'ultime phase.
C'est ce qu'annonce la FIFA qui précise que lors d'une nouvelle phase de vente organisée du 5 juillet au 16 août sur la base du principe premier arrivé, premier servi, plus de 520 000 billets supplémentaires ont été vendus. Pour les matchs de poule, l'instance mondiale affirme que les affiches qui ont eu le plus de succès sont Cameroun-Brésil, Brésil-Serbie, Portugal-Uruguay ou encore Costa Rica-Allemagne et Australie-Danemark. Il y en a en tout plus de 3 millions de billets disponibles pour le mondial 2022. Plus d'un million de visiteurs sont attendus au Qatar, pays de 2,8 millions d'habitants, pour la première Coupe du monde de l'histoire dans un pays arabe. La compétition est prévue du 20 novembre au 18 décembre prochain.
Cristiano Ronaldo promet sa vérité sur sa situation.
La star portugaise dont l'avenir à Manchester United fait l'objet d'intenses débats a promis sur Instagram de bientôt dire sa vérité tout en s'en prenant aux médias qui racontent que des mensonges selon lui. Le quintuple ballon d'or de 37 ans qui a encore un an de contrat avec Man U avait séché la reprise des entraînements des Red Devils en juillet puis la tournée en Asie et en Australie. Cette absence a été vue par de nombreux médias britanniques comme une expression de la volonté de la star de quitter Manchester, sixième de Premier League et non qualifié pour la prestigieuse Ligue des Champions.
NBA, LeBron James va prolonger son contrat avec les Lakers.
Le contrat de la superstar de la NBA va désormais courir jusqu'à la fin de la saison 2024-2025, rapporte ESPN et The Athletic. LeBron James va ainsi prolonger de 2 années supplémentaires, la deuxième étant en option son contrat avec les Lakers. Âgé de 37 ans, il a accepté une prolongation de contrat d'un montant de 97,1 millions de dollars. Cette prolongation, qui comprend une prime de 15% à la signature, ferait de James le joueur le mieux payé de l'histoire de la NBA avec 532 millions de dollars d'argent garanti, dépassant la star des Brooklyn Nets, Kevin Durant, affirme ESPN. Le champion NBA avec les Los Angeles Lakers en 2020 ouvrira la saison qui vient le 18 octobre sur le parquet des Golden State Warriors, sacré champion en juin.
Page de sport VO Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. La SADC a manifesté son inquiétude et sa solidarité au sujet des événements récents liés à la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les chefs d'État membres ont décidé d'en faire part au secrétaire général de l'ONU en septembre prochain en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est l'une des conclusions du 42e sommet de la SADC tenu à Kinshasa. À propos de la guerre en Ukraine, la SADC a réaffirmé son principe de non-alignement. Les détails à Kinshasa avec notre correspondant Alex Kati Kataï.
L'économie et l'intégration régionale n'étaient pas les seuls sujets à l'ordre du jour de ce sommet. La question de l'insécurité en RDC, au Mozambique et au Lesotho se sont invités aux discussions. Le sommet a approuvé la prolongation du mandat de la mission de la SADC au Mozambique et les processus y afférents. À propos de la situation dans l'est de la RDC, les dirigeants de la SADC ont manifesté leur inquiétude quant à ceux. Ils ont décidé de le faire savoir à l'ONU pour une solution durable. Didier Manzenga, ministre de la coopération régionale de la RDC, lit ici le communiqué final.
Le sommet a manifesté son inquiétude et sa solidarité au sujet des événements récents liés à la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo et a mandaté le président du comité ministériel de l'organe avec le concours de la Troïka, de l'organe et des pays contributeurs, de troupes à la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO, d'en faire part au secrétaire général de l'ONU, à marge de l'Assemblée générale de l'ONU, afin de rechercher des solutions permanentes, de soutenir les efforts entrepris pour l'amélioration de la situation sécuritaire.
Dans sa prise de parole en tant que nouveau président de la SADC, le président Tshisekedi a salué le soutien et la solidarité des États membres à la RDC suite à la situation sécuritaire dans sa partie orientale.
Permettez-moi de remercier notre communauté, la SADC, pour sa solidarité avec le peuple congolais au moment où notre pays est victime d'une agression lâche et barbare de la part de son voisin, le Rwanda. Et nos remerciements appuyés à la République d'Afrique du Sud, la République du Malawi et la République unie de Tanzanie, dont les vaillants soldats partagent leur sort avec les nôtres au prix du sacrifice suprême pour que la paix revienne dans la partie est de notre pays.
La guerre en Ukraine et ses conséquences en Afrique ont été aussi débattues. La SADC a exprimé son mécontentement concernant le fait que les continents soient la cible des mesures unilatérales et punitives de la Chambre des représentants des États-Unis. Le président Tshisekedi a été mandaté pour notifier au président et au Congrès américain la forte opposition de la SADC. Didier Manzenga.
Le sommet a exprimé son mécontentement concernant le fait que le continent soit la cible de mesures unilatérales et punitives en vertu de la loi sur la lutte contre les activités malveillantes de la Russie en Afrique, récemment adoptée par la Chambre des représentants des États-Unis et réaffirme sa position de principe de non-alignement à tout conflit extérieur au continent et a exigé que cette question soit inscrite à l'ordre du jour de l'Union africaine.
Le 43e sommet de la SADC se tiendra en Angola en août 2023. À l'occasion, c'est l'Angola qui prendra la tête de l'organisation régionale. Alex Katikataï, Kinshasa, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Cameroun, le gouvernement suspend les activités de certaines entreprises du secteur des cosmétiques, des compléments alimentaires et produits diététiques dits embellissants. Selon le ministre de la Santé du Cameroun, ces produits utilisés pour éclaircir la peau échappent au contrôle des services compétents et constituent un réel danger de santé publique. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Julentap.
La députée de l'opposition Nouran Foster est l'une des promotrices concernées par la mesure de suspension de commercialisation des compléments alimentaires et boissons diététiques. Le ministère de la Santé a suspendu 3 autres entreprises opérant dans le même secteur. Une décision diversement appréciée par les Camerounais.
Ces produits ne sont pas d'abord bien pour la santé. On ne sait pas en vivant ça ce que ça peut nous créer dans l'organisme.
C'est une bonne décision. Toute femme doit assumer sa peau et arrêter de se complexer.
Il faut dire que cet établissement-là existait déjà depuis. Et jusqu'ici, les autorités n'étaient pas plein ou toute mesure. Donc, je tombe vraiment de nu.
La sortie du ministre de la Santé publique fait suite à un reportage diffusé sur la télévision internationale France 24 dans lequel la promotrice Nourane Foster vantait les bienfaits de la consommation du collagène pour s'éclaircir la peau. Il y a 2 ans, la Fondation camerounaise des consommateurs avait attiré l'attention du ministre de la Communication sur la publicité des compléments alimentaires et boissons diététiques. Mais son initiative est restée sans suite. Alphonse Aïssia Bena, président de la Fondation camerounaise des consommateurs.
C'est urgentement interdit la publicité des crèmes éclaircissantes, des boissons embellissantes, de tous ces laits dits décapants qui sont constitués en majorité de substances cancérigènes. Deuxièmement, c'est interdit la commercialisation de ces produits comme le font plusieurs États africains.
Un responsable du ministère de la Santé publique a confié à VO Afrique sous anonymat que les produits éclaircissants vendus par les promotrices dont les activités ont été suspendues contiennent des substances dangereuses telles que le glutathion ou encore l'alpha-albutine. L'exploitation, l'importation, la vente et l'achat de tels produits sont réservés aux seuls pharmaciens selon une loi en vigueur depuis 1990. Les Camerounais témoignent sur les dégâts du non-respect de cette loi.
Des conséquences, c'est-à-dire au niveau de la peau. Vous allez vous rendre compte que des gens vieillissent vite. Et les rides aussi s'installent sur les visages très rapidement.
J'ai un frère qui fait dans ça et ça prend vraiment de l'argent et ça dépend de la qualité du teint que chacune veut avoir.
Dans certaines familles, des enfants peuvent rester affamés parce que des femmes vont utiliser l'argent de ration pour ce décapage qui n'apporte rien.
Selon une enquête menée en 2019 par la Fondation camerounaise des consommateurs, les femmes dépensent au Cameroun 19% de leurs revenus mensuels sur des produits de dépigmentation artificielle. Yaoundé, Emmanuel Zumtap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Le Togo veut promouvoir la lecture chez les enfants pour faire face à la dictature du numérique. C'est du moins l'ambition que porte la plateforme Idiculture Langue Kabyé, une langue locale parlée au nord du Togo, signifie la source de la culture. Sa promotrice Aurore Bessikama est une passionnée de lecture et d'activités culturelles. Diplômée en anthropologie, elle œuvre à travers son projet à promouvoir la littérature africaine chez les jeunes. Je vous propose de suivre ensemble le reportage d'Amen Assignon.
Pour cet après-midi spécialement dédié aux danses, aux chants et surtout aux contes, les enfants se sont mis en tenue traditionnelle. Une séance de contes qui vise à développer leur imaginaire créatif. Ces activités culturelles sont inscrites au programme de la plateforme Idiculture, une plateforme dédiée à la promotion de livres d'auteurs africains édités par des maisons africaines. Sa promotrice est Aurore Bessikama.
C'est une activité que nous faisons à Idiculture pour aider les enfants à pouvoir écouter les histoires, parce qu'on a remarqué qu'aujourd'hui, on n'a plus des séances de contes comme on le faisait avant. Avant, c'était les grands-parents qui racontaient des histoires, les parents et tout. Donc aujourd'hui, on n'assiste plus à cela. Donc nous voulons revaloriser le conte.
Et cela n'a pas manqué de plaire aux enfants. Yalom, 7 ans, est ravi d'avoir pris part aux activités.
J'ai aimé les contes et les danses.
On a parlé aussi de lecture. Qu'est-ce que tu penses de la lecture?
Je pense qu'à la maison, on doit lire la lecture.
Donc ça veut dire que tu lis beaucoup, hein?
Oui.
Et tu lis quoi à la maison?
Je lis les livres de cours. Mais j'ai un livre de contes à la maison.
Le principal objectif de Idiculture est d'amener les enfants à lire et aussi proposer des astuces aux parents sur comment inciter les enfants à lire. Petrina Koué est mère de 2 enfants. Elle s'est abonnée à la plateforme justement pour donner le goût de la lecture à ses enfants.
La lecture, c'est important pour les enfants, pour leur épanouissement, surtout les plans.
surtout qui sont la relève de demain, ils pourront apprendre beaucoup de choses, puisqu'on dit souvent que des choses sont cachées dans les livres, des choses que les parents peut-être n'ont pas pu découvrir, mais ces enfants, avec la lecture, pourront découvrir, s'améliorer sur tous les plans.
Entre ordinateurs, smartphones et autres écrans, les jeunes sont de plus en plus connectés et divertis, au point de délaisser tout genre de lecture. D'où l'ambition d'Aurore Bessikama, devrait malgré tout à redonner l'envie de lire aux plus jeunes.
La lecture a plusieurs avantages, en général, c'est-à-dire chez les adultes comme chez les enfants. Mais aujourd'hui, on a constaté que beaucoup d'enfants, ou bien beaucoup de personnes n'aiment plus lire. Ils sont plus attachés aux réseaux sociaux, ou bien au développement du numérique et tout. Donc, nous nous sommes dit que pour que nous puissions avoir des adultes qui lisent, il faut traiter le problème à la base. Il faut initier plutôt les enfants à la lecture, ce qui leur permettra, quand ils deviendront adultes aussi, de pouvoir continuer par lire. En d'autres termes aussi, nous savons que la lecture pourra aider les enfants à mieux travailler à l'école. C'est pour ça que nous nous sommes donné comme objectif principal de faire aimer la lecture aux enfants.
Ediculture, c'est aussi faire découvrir et aimer la lecture africaine parmi les enfants. Amène Assignon pour VOA Afrique, Lomé.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
Président de la Fédération camerounaise de football et ambassadeur de la Coupe du Monde Qatar 2022, Samuel Eto'o était au Sénégal dans le cadre d'une tournée de promotion du Mondial. À Dakar, l'ancien international camerounais a appelé les Africains à l'union sacrée pour que ce mondial soit inédit pour le continent. La correspondance de Seydina Abagay à Dakar.
Et pour moi, en tant qu'Africain, je me dis toujours, notre unique problème en Afrique, c'est que nous ne croyons pas suffisamment en nous. Pourtant, nous sommes les meilleurs.
Lors de son passage à Dakar, la légende du football camerounais Samuel Eto'o a troqué son costume d'ambassadeur de la Coupe du Monde Qatar 2022 pour porter celui de porte-parole du football africain. Pour lui, il est temps que l'Afrique se donne les moyens d'être au même niveau que les grandes nations du football mondial.
Mais aujourd'hui, nous avons le meilleur footballeur au monde, Sadio Mané. Mais il fait la fierté de notre continent. Ayant des joueurs comme mon petit frère Sadio, il est normal qu'on ne rêve plus seulement, qu'on travaille pour devenir numéro 1. Très souvent, les gens se disent, gagner une Coupe du Monde, c'est presque impossible pour l'Afrique. Mais moi, je vous dis, c'est possible. Parce que c'est une compétition à 7 rencontres. 7. C'est pas 200, c'est 7. Oui, c'est une compétition à 7. Donc, le meilleur des 7 devient champion du monde. Et c'est ce que les Africains doivent penser.
Mais comment les nations africaines peuvent faire pour briser ce plafond de verre des quarts de finale? Abdoulaye Thiam, président de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal, affirme que l'Afrique a dépassé les remous qui l'empêchaient d'être performante à la Coupe du Monde.
Pas seulement jouer les demi-finales, qui serait une première depuis 1930 à nos jours, mais aussi pourquoi pas jouer une finale et la remporter. Donc c'est aujourd'hui à la portée des équipes africaines parce qu'il y a eu un retard dans le football africain en ce qui concerne notre administration, en ce qui concerne la rigueur dans le travail, en ce qui concerne les infrastructures et aussi manque de sérieux de certains de nos joueurs. Mais aujourd'hui, ce qui reste à faire, ça se situera sur les détails. Il va falloir gérer les détails, anticiper sur beaucoup de choses, travailler pour que l'Afrique enfin atteigne le carré d'as, joue la finale et pourquoi pas la remporte.
Plus prudent, le journaliste sportif Tidiane Diagne ne mise pas forcément sur une victoire finale. Il pense cependant que les nations africaines auront leur mot à dire.
L'Afrique a de bons représentants qui peuvent éventuellement, en tout cas, prétendre à jouer un certain rôle dans cette Coupe du Monde, tout en sachant que ce ne sera jamais facile, puisqu'en face également, il y a de très bonnes nations qui sont là, qui sont des habitués, qui ont l'expérience et qui peuvent également prétendre à remporter cette Coupe du Monde.
La visite de Samuel Eto'o à Dakar aura eu un impact positif sur le public et les acteurs sportifs. L'ambassadeur de la Coupe du Monde Qatar 2022 a galvanisé les Sénégalais et les Africains et les a incités à croire à une victoire finale africaine lors de la grande messe du football mondial. Seydina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bio à ce micro, à la mise en onde, Lionel Gaïba. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.